Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Qu'est-ce qui nous pousse à acheter ou pas ? Par quelle force mystérieuse avons-nous envie ou pas d'acquérir le smartphone dernier cri, cette tondeuse qui nous fait de l'œil, ce livre qui nous tend les mains, ce paquet de gâteaux, cette paire de chaussettes, cette petite robe noire ? Quels sont les mécanismes psychologiques qui suscitent l'acte d'achat ? Quelles sont les zones cérébrales impliquées ? Pourquoi certains d'entre nous cèdent plus facilement alors que d'autres pas du tout ? Quelle satisfaction retirons-nous après avoir acquis un bien de consommation ? Et puis nous verrons comment les grandes techniques de la publicité nous incitent à l'acte d'achat. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à acheter pour votre plaisir ? Êtes-vous une accro au shopping ? Parvenez-vous à résister à certains achats non essentiels ? Qu'est-ce qui guide votre comportement d'achat ? N'hésitez pas à partager vos témoignages et à poser vos questions au 01 45 24 7000. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité à Femmes Actuelles. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Ah bah écoutez, je trouve qu'entre nos deux parties du cerveau en cause, c'est un match digne de PSGOM.
Bonjour Eric Libiot.
Bonjour Ali.
Alors je ne dirai pas ce matin ce qui peut pousser à acheter votre nouveau livre « On a les héros qu'on mérite ».
D'autant qu'il sort demain, donc
oui. Quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien nous parlerons Marcel Proust et lave-linge.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Tell the truth, but make the truth fascinating. You know, you can't bore people into buying your product. You can only interest them in buying it.
Le grand publicitaire David Ogilvy qui dit en substance « Dites la vérité, mais rendez-la fascinante. Il faut que ça intéresse les gens d'acheter vos produits. » Et on va essayer de comprendre ce qui nous pousse à acheter ces produits. Bonjour David Colomb.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, vous enseignez l'histoire de la propagande et les techniques de communication persuasive et vous publiez chez Taillandier un livre passionnant, je l'ai vraiment adoré, Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse, et on retrouve dans votre livre ce célèbre publicitaire David Ogilvy. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, praticienne à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, et vous publiez dans le nouveau mensuel Cerveau et Psycho, solde acheté ou pas. Bonjour Caroline Cuny.
Bonjour Monsieur Rébéi.
Vous êtes docteur en psychologie cognitive, professeur de marketing à Grenoble École de Management et vous êtes une spécialiste du comportement du consommateur. Alors David Colomb, nos actes d'achat sont influencés par des techniques de persuasion dont nous n'avons pas conscience, ou sommes-nous plutôt les victimes consentantes, pas du tout dupes de ce qui se trame ?
Nous sommes les victimes d'une industrie qui est celle de la publicité, qui depuis plus d'un siècle a développé des techniques de persuasion qui souvent font appel à certains réflexes qui nous sont inconnus puisqu'ils ont trait au fonctionnement de notre cerveau.
Victime consentante ou pas ?
Nous sommes consentants dans la mesure où nous acceptons de céder à la tentation qui nous est exposée, mais en même temps c'est une tentation savamment conçue. On parlait tout à l'heure de chaussures. Ernest Dichter, qui fut l'un des plus grands persuadeurs cachés, disait aux femmes « Ne vendez pas de chaussures, vendez de jolis pieds. »
Caroline Cuny.
Oui, alors je dirais qu'on est victime plutôt de nos mécanismes psychologiques d'une certaine façon. Alors consentant ou pas, c'est une très belle question puisqu'en fait il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'on est pas du tout conscient, et donc tout un tas de mécanismes derrière nos prises de décision sont complètement automatiques, et du coup on serait consentant que sur une toute petite partie, je dirais, de nos prises de décision.
Alors il n'est pas évident d'admettre qu'on nous manipule quotidiennement, que l'envie d'acheter le dernier smartphone à la mode n'est pas le fruit d'une saine délibération avec soi-même, le fruit de son libre arbitre, Sylvie Chocron.
Alors effectivement, la plupart de ces processus sont totalement implicites. Et comme vous le disiez tout au début, on ne sait pas que dans notre cerveau, il y a un combat qui se mène à chaque instant entre les régions de notre cerveau qui nous disent que acheter cet objet-là va nous faire vraiment plaisir. Et donc, il y a une petite région qui s'appelle le noyau accumbens, qui est un noyau qui fait partie du circuit de la récompense, qui s'active dès que vous avez la bonne surprise de trouver l'objet vraiment que vous convoitiez, et qui s'active encore plus s'il est soldé. Et donc, du coup, vous avez là un plaisir immense devant cet objet. Et puis, en même temps, il y a une région dans votre cortex préfrontal, à l'avant de votre cerveau, qui vous dit, oh là là, non, le cortex préfrontal,
d'abord,
qui vous dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que vraiment tu vas acheter un énième pull noir, même s'il est très beau et soldé? Et puis, il y a cette région, Ali, dont vous parliez, l'insula, qui est une petite région qui s'active normalement lorsqu'on imagine avoir mal, lorsqu'on pense à de la douleur physique. Et on a remarqué que cette petite région, elle s'active aussi chez certains lorsqu'ils se rendent compte qu'ils vont regretter leur achat et que ça va être très douloureux de se dire qu'ils ont payé tellement cher pour un objet qu'ils ont déjà en triple exemplaire à la maison. Et donc, du coup, il y a effectivement ces trois régions dans notre cerveau qui, en permanence, vont combattre. Et puis, ceux qui vont acheter beaucoup se sont laissés emporter par le circuit du plaisir. Et puis, ceux qui vont, au contraire, se restreindre, ont finalement une insula qui veille au grain et qui leur dit peut-être pas cette fois-ci.
C'est quoi la persuasion exactement, David Colomb ?
La persuasion est l'art de convaincre d'adopter un comportement, par exemple un comportement d'achat. Cette persuasion peut être ouverte, transparente, ou elle peut être cachée. Et les mécanismes dont nous parlons relèvent pour la plupart d'une persuasion cachée.
Caroline Cuny, pour le dire très vite, il existe trois grandes catégories d'influence pour nous inciter à acheter.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des caractéristiques qui vont être plutôt individuelles, par exemple des traits de personnalité, par exemple effectivement mon besoin sur le moment de tel ou tel produit. Il y a des influences qui sont plutôt sociales, donc quand j'appartiens à un groupe ou quand j'ai envie de faire comme quelqu'un ou un groupe qui représente un modèle pour moi, ou des influences de la culture, et puis l'application des normes ou des règles. Et puis enfin, il y a des influences qui sont plutôt situationnelles. Donc là, sur le coup, un vendeur qui me dit quelque chose qui me fait inciter à acheter, ou une promotion, mais qui est valable juste aujourd'hui, ou si j'en achète trois au lieu de deux, et mon état physiologique. Alors voilà, ça c'est le fameux « je passe devant une boulangerie et bien évidemment, j'ai faim ». Donc là, ça va marcher bien mieux que si je n'avais pas faim du tout.
Sylvie Chocron.
Oui, puis il y a le contexte aussi, parce que parfois, le shopping, ça peut être une thérapie. Parfois, rien ne marche dans notre vie, on est au bout du bout. Et puis au moins, le shopping, on va obtenir ce pour quoi on a payé. Et donc, quelque part, on contrôle cette situation. Et donc, ça peut être réconfortant, au moins une fois dans la journée ou dans la semaine, d'avoir obtenu ce qu'on a exactement fait. Donc c'est pas forcément un trait de caractère, ça peut être simplement lié au moment présent.
David Colomb, nos actes d'achat doivent beaucoup à des génies de la persuasion que vous décrivez dans votre livre. Certains ont inventé ce qu'on appelle la publicité scientifique. J'aimerais citer deux noms qui nous permettront de bien comprendre les choses. Il s'agit de Claude Hopkins et Albert Lasker. Expliquez-nous ce qu'est la publicité scientifique et pourquoi elle a encore de l'influence aujourd'hui en 2022.
Dès les années 1910, ils ont eu l'idée de mesurer l'impact des publicités sur les ventes, de sorte d'améliorer sans cesse la publicité pour qu'elle soit plus performante. Ils ont créé une nouvelle forme de publicité qui s'est imposée pendant un siècle aux États-Unis et bientôt dans le reste du monde.
Tiens, prenons un exemple. On est dans les années 1920 et le publicitaire Albert Lasker va changer radicalement les habitudes de consommation des Américains. Je pense à la marque de serviettes hygiéniques Kotex. Comment s'y est-il pris pour nous inciter, pour inciter les Américaines à acheter ces protections périodiques? On est dans les années 20.
Pour commencer, il les fait distribuer dans les pharmacies en mettant un prix fixe pour qu'il n'y ait pas de rendu de monnaie et que l'achat soit le plus rapide possible. Elles sont vendues dans des pochettes anonymes de sorte que personne ne puisse deviner ce dont il s'agit, et il assure leur promotion dans différents magazines destinés d'abord aux classes les plus aisées de la population.
Et est-ce qu'il en reste quelque chose de cette technique de publicité aujourd'hui en 2022?
Bien sûr, puisque la facilité avec laquelle on réalise l'acte d'achat participe pleinement de cette manipulation, dans la mesure où il s'agit de nous faire réagir très vite. Et l'invention de l'achat en un clic,
ah oui,
par exemple, en est l'illustration parfaite. Plus vous achetez vite, moins vous avez de chances de faire appel à votre réflexion.
Vous acquiescez, Marie-Laure Zonshein, vous êtes victime de ce bouton, de ce clic où on peut acheter rapidement.
En tout cas, je n'achèterai pas la tondeuse dont vous parliez en début d'émission, ça je vous le confirme, mais c'est vrai que le fait d'acheter en ligne, c'est ça aussi la question qu'on se pose, on parlait des années 20, on va passer d'un siècle plus tard, le fait de ne pas pouvoir tenir l'objet, de marcher jusqu'à la caisse en se disant, oh non, peut-être pas, on est seul, on est devant son portable, son écran, personne ne vient nous distraire ou nous dissuader. Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour finalement faciliter ou pas cette décision d'achat ?
Sylvie Chocron.
Vous avez tout à fait raison. Le but d'acheter en un clic, c'est d'acheter vraiment sans réfléchir, d'autant que cliquer, c'est devenu une tâche quasi automatique et tellement rapide. Et il y a des études qui ont effectivement montré que cette région dont on parlait tout à l'heure, qui est l'insula, qui est cette région qui s'active lorsqu'on prédit qu'on aura une douleur morale d'avoir fait cet achat, mais elle s'active moins lorsqu'on achète en ligne et encore pire en un clic.
On sait pourquoi ?
Bah, je pense que c'est parce que l'achat, comme vous le disiez, est encore très lié à une expérience sensorielle. Mmh. Et d'ailleurs, les magasins le savent bien. Hein. Maintenant, quand vous rentrez dans un magasin, il y a non seulement de la lumière particulière, une musique particulière, un parfum dans beaucoup de magasins. Et donc, du coup, les magasins jouent aussi sur cette expérience sensorielle qui vient renforcer le plaisir d'acheter, mais qui aussi, finalement, on est très conditionné encore par le fait de toucher l'argent. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais il a une odeur, il a une texture, il a un toucher. Et finalement, notre façon de céder ou pas, elle est aussi liée à cette expérience sensorielle. Et finalement, on est en train d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Peut-être qu'on arrivera à mieux se contrôler, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un acte assez automatique d'acheter en un clic.
Caroline Cuny.
Oui, je voudrais simplement rajouter à propos de ces expériences sensorielles, c'est effectivement très intéressant et on se rend compte en fait que dans y compris à travers des interfaces digitales, il y a maintenant des possibilités de simuler en fait toutes ces expériences sensorielles de façon tout à fait convaincante pour notre cerveau. Et ça, c'est parce que notre cerveau, il a cette capacité en fait à directement activer presque les mêmes aires qui soient en face en fait d'un produit ou qu'il le tienne vraiment dans la main ou qu'il voit quelqu'un qui est en train de s'en servir. Donc, c'est toutes les théories autour de la cognition incarnée dont vous avez déjà parlé. Ici, l'idée, c'est simplement de se rappeler que pour notre cerveau, parfois, voir quelqu'un qui est en train de déguster quelque chose sur son téléphone ou à travers l'interface de son ordinateur, ça nous fait presque exactement la même chose. Et du coup, ça nous donne envie, nous aussi, de déguster, par exemple, le même produit ou de l'acheter. Donc, ça fonctionne aussi de cette façon-là. Les expériences sensorielles, à travers ce canal numérique, sont très, très efficaces.
Restez avec nous. Dans quelques instants, nos invités vous diront ce qui nous pousse à acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin, notamment cette période de solde qui s'achève la semaine prochaine. En attendant, on écoute Joe Dassin. Salut les amoureux.
Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes en paix, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux.
Joe Dassin, salut les amoureux.
Il y en a marre de cette bulle de consommation dans laquelle ils nous font vivre.
Grand bien vous fasse.
On passe par les rayons poissonnerie, qu'est-ce qu'on achète? Du poisson. On en prend, on a deux congèles. Donc on en congèle. Hop, c'est infernal. Ça n'a pas de fin.
Sur France Inter.
10h23, qu'est-ce qui nous pousse à acheter ou pas? C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Alors David Collomb, je rappelle que vous publiez Les Maîtres de la Manipulation. Vous évoquez le publicitaire américain Albert Lasker, précédemment cité. Albert Lasker qui a contribué à inventer l'image de marque. L'image de marque qui pousse à acheter tel ou tel produit de telle marque.
Exactement. Il s'agit d'associer une image symbolique à un produit ou à une marque, en général, de sorte d'encourager l'acte d'achat.
L'image de marque met en avant ce qui distingue le produit. Si j'achète telle marque à la forte identité, je me distingue.
Ernest Dichter en a donné un excellent exemple.
Un autre publicitaire.
Avec une marque d'essence, dont le slogan est « Mettez un tigre dans votre réservoir ». Autrement dit, il ne s'agit plus de vendre de l'essence, il s'agit de vendre de la puissance.
Pour bien comprendre cette histoire d'image de marque qui nous pousse à acheter, écoutons ceci.
Jean.
George.
Jean.
What else?
That's what George Clooney says.
Bon, mais voilà, c'est la célèbre capsule de café célébrée par Georges Clooney et Jean Dujardin. Caroline Cuny, je rappelle que vous êtes professeure de marketing à Grenoble École de Management. Acheter une capsule chic dans une boutique qui ressemble à une bijouterie, eh ben là, on n'achète pas simplement du café, on achète autre chose. Hein. Cette capsule est devenue un marqueur de distinction sociale. Et les publicitaires et les marketeurs jouent admirablement sur ça. Caroline Cuny.
Oui, là, par exemple, on a ici une illustration de cette influence sociale dont on pouvait parler tout à l'heure. Donc, j'ai envie, effectivement, plutôt de ressembler ou d'appartenir à un groupe social qui me paraît convenable, acceptable, voire désirable pour moi, par exemple, ici, d'une classe sociale un peu plus élevée. Et du coup, je vais adopter des comportements qui vont pouvoir me rapprocher de, par exemple, en achetant et en consommant un certain nombre de produits ou de services qui associent à cette classe sociale. Et puis, ici, je voudrais rajouter peut-être le point dont parlait tout à l'heure Sylvie Chocron, qui est associé à quelque chose qui est plutôt de l'émotionnel aussi. Donc, on a de l'humour. Donc, il y a aller vers cette classe sociale, mais il y a aussi le fait que, ici, ça va jouer sur des émotions qui sont plutôt agréables. Donc, pourquoi ne pas me laisser tenter ?
On incorpore, Sylvie Chocron, l'image de marque qui va contribuer à son identité, l'image de marque qui joue sur notre désir puissant, profond de reconnaissance.
Alors, l'image de marque, elle joue effectivement sur notre identité, parce qu'en se rapprochant, en achetant cette marque-là, bah, notre identité va finalement être la même que les personnes qui ont été dans la publicité. Donc, on va s'identifier finalement à la publicité, et donc ça va sans doute être très narcissisant, ça va nous valoriser. Mais en plus de ça, l'image de marque, elle joue aussi sur notre mémoire. Et donc, on connaît cette expérience, je peux pas citer les noms, mais on a donné deux boissons gazeuses rivales.
Pepsi et Coca.
Pepsi et Coca. On a donné ces boissons à des sujets qu'on a installés dans des IRM, donc dans des machines pour regarder leur cerveau en action. Et on leur a dit ce qu'elles étaient en train de boire ou on leur a caché ce qu'elles étaient en train de boire. Quand on a caché ce que les sujets voyaient, on avait la même activité dans le cerveau. Par contre, quand on leur a dit ce qu'elles étaient en train de boire, alors on avait une activité en plus dans le circuit de la mémoire et dans le circuit des émotions, ce qui montre bien que lorsqu'on boit ou lorsqu'on consomme n'importe quel aliment en connaissant sa marque, mais ça pourrait peut-être marcher aussi pour un jean ou pour un sac, non seulement on utilise cet objet, mais en plus de ça, on active dans notre cerveau toutes les connaissances relatives à cet objet. Ce qui a été très drôle, beaucoup plus drôle que Pepsi et Coca, c'est quand on a donné de la piquette ou un grand cru à des sujets et qu'on s'est rendu compte qu'il se passait exactement la même chose.
David Colomb.
David Ogilvy, le grand publicitaire américain, avait eu l'intuition de ce phénomène à propos de deux marques de whisky. Mmh. Il disait « Les gens ne boivent pas du whisky, ils boivent des images. »
Il y a une publicité d'un célèbre art discounter qui joue sur ça en ce moment, hein, sur l'expérience. Exactement. Que vous venez de citer.
Exactement, parce que on n'est pas allé jusqu'au bout de ce phénomène.
En faisant goûter, pour la raconter cette publicité. Exactement. En faisant goûter du foie gras, il y a différents prix, croissants, c'est le même foie gras en fait, et systématiquement, les consommateurs de cette chaîne de supermarché préfèrent le foie gras plus cher.
Exactement, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de l'explication, mais non seulement on active la mémoire, donc
alors que c'est le même foie gras. Hein.
Exactement, par rapport à la marque, mais en plus ça altère notre goût. C'est-à-dire que si on vous dit que vous buvez un grand cru, vous allez le trouver bien meilleur que si on vous dit que c'est de la piquette, alors que c'est le même vin. Donc en fait, non seulement on est influencé dans nos choix par la marque, mais on est aussi influencé au niveau de notre expérience sensorielle. La menthe est meilleure si elle est verte, le foie gras est meilleur s'il est très cher, et le vin est meilleur si on nous dit que c'est un grand cru classé.
Éric Livio.
Oui, je voulais juste revenir sur la publicité qu'on a entendue tout à l'heure entre Jean Dujardin et Georges Clooney, où il ne parle pas du tout du produit, ce qui joue sur le langage, il joue sur le slogan. Et en même temps, la publicité, j'ai l'impression qu'elle joue sur une espèce de mise en abyme et d'une espèce de connivence avec le téléspectateur. C'est-à-dire, il comprend. Donc, il y a une espèce de. Il se sent privilégié parce qu'il comprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer ce que c'est que ce produit. Et donc, l'acte d'achat est peut-être d'autant plus immédiat parce que justement, il va se sentir dans une petite caste et que la publicité, souvent, fonctionne comme ça.
Mais vous avez tout à fait raison parce qu'en fait, la publicité, elle agit, comme on l'a dit avant, sur notre mémoire implicite, inconsciente. Et donc, on a fait une association entre le dialogue au moment de la publicité et le produit. Et ensuite, il nous suffit d'écouter ce dialogue pour activer toutes les représentations liées au produit. Et ça, c'est le summum de la publicité. C'est quand on n'a même plus besoin de citer le produit, parce qu'on est conditionné par la forme de la publicité.
David Colomb.
Des publicitaires au XXe siècle se sont employés à établir la liste des processus psychologiques impliqués dans l'acte d'achat. Le premier a été Ernest Dichter, qui en 1939, pour étudier une marque de voiture, a établi notamment le fait que l'achat d'une voiture était le prolongement de sa personnalité. Il a compris aussi pourquoi tous les hommes de 40 ou 50 ans voulaient acheter une décapotable, mais en même temps ne le pouvaient pas, parce que la décision d'achat appartenait à leur épouse.
Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Caroline Cuny, tout à l'heure, nous parlait de ce qui pouvait nous influencer, notamment de la culture. Moi, je trouve assez fascinant, par exemple, on parlait d'une chaîne alimentaire à l'instant, en France, vous l'avez vu certainement récemment, cette espèce d'histoire, il y a un storytelling terrible d'un enseignant qui va quitter son petit village, tout le monde lui organise une fête. On ne sait pas de quoi on parle, on le comprend à la fin. vous traversez l'Atlantique, vous allez aux États-Unis, les chaînes de grands magasins, enfin d'alimentaire, c'est pas du tout ça, c'est du basique total. On va vous dire que le paquet de chips est en promo à 2,50 $ et c'est tout. Il y a pas d'histoire, il y a pas de personnage, c'est le produit et son prix. Et ça, c'est, je trouve, assez fascinant de se rendre compte que, certes, on a tous le même cerveau, mais on n'utilise peut-être pas les mêmes, en tout cas, les publicitaires ne font pas appel aux mêmes choses pour nous inciter à acheter.
David Colomb.
En même temps, on peut ici établir un certain nombre de corrélations par l'exploitation des données. Des chercheurs, par exemple, ont montré que le samedi, on achetait plus de couches et plus de bières parce que les maris étaient chargés par leur épouse d'aller acheter des couches et en profiter pour acheter des bières. Rapprochez les couches et les bières et vous augmenterez l'achat des deux.
Caroline Cuny.
Oui, pour revenir sur cet aspect de culture, on fait le lien, en fait, justement ici avec nos expériences et du coup ce qu'on a dans notre mémoire dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'en fait la culture va imprégner, en fait, ma mémoire, tous mes souvenirs depuis très 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 longtemps, depuis qu'on est tout petit. Et du coup, il va y avoir un certain nombre de valeurs qui vont être associées à mes actions de consommation, qui vont être véhiculées par la culture. Il peut y avoir aussi un certain nombre d'éléments qui sont plus ou moins importants d'un point de vue hiérarchique. Peut-être qu'il faut, dans telle culture, faire plus attention à le caractère collectif, par exemple, des choses. Et puis dans d'autres cultures, plus miser sur l'identité qui me construit de façon plus individuelle. Et ça, ça va du coup, évidemment, modifier complètement nos associations en mémoire dont parlait Sylvie Chocron tout à l'heure, et du coup aussi nous inciter à acheter en fonction d'une réaction par rapport à un message d'une culture ou d'une autre.
Et nous accueillons Arlette de Cannes. Bienvenue Arlette.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Alors, quel type d'acheteuse êtes-vous, Arlette ?
Alors, écoutez, moi, je commence à devenir une acheteuse repentie. Et en fait, votre émission a répondu à pratiquement toutes mes questions.
Tant mieux.
J'essaie quand même d'être brève. Pendant très longtemps, bon, j'ai vécu à Marseille, donc il y avait tout. Et je suis partie vivre en Savoie où il n'y avait rien. Donc, j'étais comme un petit sauvage là qui arrive dans la ville. Chaque fois que je repartais en ville, Paris, Marseille, Lyon, j'achetais. Et puis, je donnais tout. Je donne encore, hein. Mais je donnais tout, même à des gens et surtout à des gens plus riches que moi. Et c'était, je sais pas, et je viens de comprendre pourquoi cette sensation de puissance que je n'ai pas dans ma vie parce que j'ai raté énormément de choses, sauf ma fille, et Dieu merci. Ma vie était un ratage complet. Et donc, je compense. Et puis du coup, c'est peut-être parce que ça me donnait, pourtant je suis pas hautaine, je suis pas méprisante, mais une impression de, allez, j'achète, tu le veux, tiens, prends-le. Mmh. Et je disais à votre la personne qui m'a répondu, j'ai quand même été amie avec une femme très riche, qui avait un 5 étoiles luxe que j'ai connu comme ça, une dame âgée, qui avait l'âge de ma maman. Je suis allée jouer au tennis chez elle, dans sa propriété. Elle aimait mon sweatshirt que j'avais acheté chez H&M, à, comme on disait en Suisse, à 9,90 €. Mmh. Et je le lui ai donné. Elle, oh, il est joli, je le lui ai donné. Et elle m'a dit, mais c'est pas vrai, ça, des choses comme ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis madame machin, on m'offre du champagne, du caviar, du machin. Mais que quelqu'un enlève son sweat pour me le donner, et du coup, ça a été une amitié extraordinaire.
Alors là, j'ai une petite question. Est-ce que la publicité, les techniques de persuasion de la publicité a une influence sur vous? Est-ce que
absolument
vous êtes...
Pas.
Ah, d'accord.
Ah non, mais moi, c'est mon cerveau qui travaille dans sa publicité personnelle. Absolument pas. Par contre, je suis très snob.
Ah bon. Merci Arlette. Sylvie Chocron, voulez-vous
Alors,
répondre?
Oui, moi, je voulais répondre à Arlette pour lui expliquer, en fait, ce qui se passe dans notre cerveau quand on achète pour autrui, active encore plus le circuit de la récompense que quand on achète pour soi. Donc, il y a une expérience qui a été faite où on donnait aux États-Unis $500 à des salariés et on leur proposait de dépenser ces $500 pour eux-mêmes ou pour autrui. Et on s'est rendu compte que dépenser cet argent pour quelqu'un, et donc faire des cadeaux, finalement nous rendait beaucoup plus heureux que d'acheter pour nous-mêmes. Donc je pense que Arlette, vous vous êtes fait très plaisir en faisant des cadeaux. Et puis sur l'aspect, le fait de ne pas ressentir l'influence de la publicité, en réalité, si on nous posait la question, on répondrait tous qu'on n'est pas sensible.
Exactement.
Mais en même temps, si c'était le cas, il n'y aurait pas de tel budget dans la publicité. Donc du coup, j'ai du mal à croire qu'on soit insensible.
Merci beaucoup Arlette pour votre chaleureux témoignage. Alors David Colomb, j'aimerais qu'on s'attarde sur un autre grand nom de la persuasion de masse. C'est le neveu de Freud, Edouard Bernays, qui est mort à l'âge de 103 ans, en 1995. Ce qui intéresse Edouard Bernays, c'est de modifier modifier l'attitude du public sur un produit. Et il a su admirablement, cet Édouard Bernays, identifier les leviers psychologiques de la consommation.
Il s'est inspiré de la pensée de son oncle, qu'il a appliqué à la publicité. Je vous donnais un seul exemple, qui est un exemple célèbre du bacon. Un fabricant de bacon qui avait des stocks gigantesques, il s'agissait de le vendre aux Américains. Et il a eu recours à la figure d'autorité des médecins, par une enquête qui a montré que un déjeuner copieux était bon pour la santé, pour encourager par la publicité l'achat de bacon. Il a inventé, en d'autres termes, le petit déjeuner que l'on appelle américain.
Et il a su, cet Édouard Bernays, à faire usage des symboles pour doter les produits d'une identité distinctive.
Il a été recruté par un fabricant de cigarettes qui voulait conquérir le marché féminin et Bernays s'est inspiré de la pensée de son oncle pour associer à la cigarette un symbole d'émancipation féminin à l'égard de la domination masculine. Il a organisé un pseudo-événement en mai 1929, les torches de la liberté, ouais. Des jeunes femmes qui défilaient sur la 5e avenue et les journalistes venaient les interroger. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne fumons pas, nous. Nous brandissons nos torches de la liberté.
Tiens, écoutons cet extrait de la série Mad Men.
Si vous ne pouvez plus parler de santé, vos concurrents non plus.
Donc, on est un tas de gogos. On ne peut plus dire quoi que ce soit pour vendre nos cigarettes.
Pas tout à fait. C'est le plus grand tournant dans l'histoire de la publicité depuis l'invention des céréales. Nous avons 6 fabricants identiques qui vendent des produits identiques. On peut dire n'importe quoi. Elles sont faites comment, vos cigarettes ?
On plante des graines de tabac traitées contre les insectes sous le beau soleil de Caroline du Nord. On récolte, on sèche les feuilles, on les grille.
Très bien ça, on y va. Lucky Strike, on les grille.
Mais le tabac des autres fabricants est grillé aussi ?
Non, le tabac des autres fabricants est cancérigène. Celui de Lucky Strike est grillé. La publicité repose sur une seule chose. Le bonheur. Et le vrai bonheur, vous savez ce que c'est ? Ça peut être l'odeur d'une voiture neuve. Ou le fait de savoir qu'on n'a plus à avoir peur. C'est un panneau au bord de la route qui vous rassure, qui vous donne la paix et la confiance, qui vous dit que quoi que vous fassiez, tout ira bien. Vous n'avez rien à craindre.
On les grille. C'est bien.
Extrait de la série Mad Men. Édouard Bernays a donc inventé les tactiques secrètes de l'industrie du tabac, qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est extraordinaire cet extrait.
David, c'est extraordinaire. En même temps, il s'est inspiré d'autres publicitaires, Albert Lasker notamment. Il s'agissait d'attribuer une valeur exclusive, une promesse exclusive à chaque objet, qu'elle soit ou non proprement exclusive. Mais à partir du moment où une marque de cigarette revendiquait le fait d'être toastée, d'être chauffée, eh bien, cela la distinguait des autres.
Sylvie Chocron.
Oui, je pense que ce que ces publicitaires ont inventé, c'est non seulement comment agir sur notre cerveau pour qu'on achète, mais aussi comment nous transmettre les valeurs de l'entreprise, en tout cas ce que l'entreprise veut communiquer. Et donc c'est vraiment une façon d'entrer insidieusement dans notre cerveau, non seulement par la voie de la mémoire pour pouvoir nous faire acheter plus tard, mais aussi par la voie des émotions, de l'identification, des valeurs, de la culture, bref, de notre identité.
Caroline Cuny.
Oui, je voudrais rajouter que c'est tout de même pas si évident que ça de comprendre et de pouvoir mesurer l'efficacité des publicités, parce que souvent les publicités arrivent à un moment où la personne, le consommateur ou la consommatrice n'est pas en train d'acheter. Et donc il y a tout ce temps en fait entre le moment où j'ai visionné ou entendu une publicité et le moment où je suis en train de décider d'un achat, qui fait qu'il peut se passer tout un tas d'autres choses et beaucoup d'influences différentes. Et notamment, il y a un certain nombre de chercheurs, même si c'est pas facile hein, de hiérarchiser ces facteurs d'influence, qui pensent quand même que les facteurs donc situationnels ou contextuels dont on parlait tout à l'heure seraient les plus prépondérants. C'est-à-dire que ce qui se passe quand vous êtes en train de vous décider pour acheter, c'est ça en fait qui va compter le plus, beaucoup plus encore que ce que vous avez entendu ou vu auparavant dans une publicité.
Caroline Cuny, les publicitaires sèment des graines du désir pour nous inciter à acheter, mais qu'est-ce qui se passe entre ce moment où nous voyons des publicités qui peuvent nous donner envie et le moment de l'achat ? Qu'est-ce qui mature dans cet intervalle de temps ?
Bon, alors il se passe plein de choses, j'imagine. Il y a en fait la consolidation des informations dans notre mémoire, et puis toutes les informations perceptives qui vont là nous stimuler à un moment donné ou à un autre, qui vont aller ou pas dans le sens de ce qu'on a vu auparavant. Et puis on peut oublier un certain nombre d'informations, on peut peut-être avoir des informations complémentaires qui vont nous être données par, je sais pas moi, nos amis, un enfant qui tire sur la jupe pour pouvoir acheter un autre produit, etc. etc. Enfin, en tout cas, il y a tellement de choses qui se passent entre ces moments-là que c'est pas facile ensuite de savoir comment est-ce qu'on s'est décidé pour un achat ou un autre.
Sylvie Chocron.
Oui, et puis au moment, donc pendant qu'on est entre la publicité et l'achat, bah on a aussi toute la construction du désir, hein, de l'envie, pour peu qu'on n'ait pas acheté tout de suite, justement. Et au moment où on va acheter, il y a aussi, bah c'est là qu'on a nos mécanismes de contrôle qui se mettent en place. Et on sait très bien, on nous dit toujours qu'il faut pas faire les courses quand on a faim, par exemple, parce qu'on va remplir son caddie de sucre rapide, de choses qu'on n'achèterait peut-être pas forcément. Et il y avait eu une expérience dans les années 90 qui était assez drôle et qui avait montré que si vous faites du shopping ou vos courses alors que vous avez envie de faire pipi et que donc vous vous contrôlez très fort, bah finalement ce contrôle il va aussi s'opérer sur vos achats. Et donc on a un niveau de contrôle dans le cerveau. Si on fait nos courses à un moment où on a faim, on est fatigué en fin de journée, on n'en peut plus, on n'a plus de capacité de contrôle. Et là, bah, notre cerveau finalement, il n'a plus les moyens de nous réfréner. Si au contraire on est dans un état bien éveillé, de tension, pas trop fatigué et qu'on n'a pas faim, on est capable à ce moment-là de se contrôler et donc de se réfréner un petit peu.
Ingrid nous écrit ceci: quand je vois un objet qui me plaît mais dont je n'ai pas besoin, je ne l'achète pas de suite. Si plusieurs jours plus tard j'y pense encore, alors je sais que je vais le porter ou m'en servir, alors là je vais craquer, sinon l'envie me passe.
Oui, en fait, le fait d'introduire un délai temporel, alors pour ceux qui achètent en ligne, vous pouvez aussi constituer un panier sur le site et puis aller regarder votre panier le lendemain, deux jours après, une semaine après. Donc le délai temporel, il permet la mise à distance et il permet effectivement de décider si on en a vraiment besoin ou pas.
Marie-Laure Sunshine.
Alors, il y a le plaisir d'acheter, la douleur de dépenser, et puis on le voit surtout auprès des jeunes générations, il y a un temps de réflexion. Toutes ces générations de jeunes qui sont sensibles à l'environnement, aux conditions éthiques, aux conditions de travail, des salariés, des employés qui ont fabriqué ce produit, c'est un temps supplémentaire et qui va ou pas les guider justement vers l'achat ou le renoncement.
Oui, c'est ça. Alors si toute cette jeune génération prend en compte effectivement tous ces facteurs-là, ça va pouvoir agir, parce que finalement, on pense toujours que acheter, c'est une tâche très rapide et très simple, mais on l'a vu, ça met en jeu plein de régions dans notre cerveau, y compris, comme vous le dites, le raisonnement. Et pour peu qu'on utilise nos capacités de raisonnement pour se dire ah non, bah cet objet, il a été fabriqué, il a été fait par des enfants qui travaillent à la chaîne au bout du monde, est-ce que j'en ai vraiment besoin dans sachant cela, effectivement, alors on va pouvoir se réfréner. Le problème, c'est quand on achète sans raisonner, justement.
Il est temps, à 10h43, de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
J'ai failli vous oublier, j'étais absorbé par les propos de Sylvie Chocron.
Vous m'oubliez tout le temps.
Éric Libiot.
Alors vous savez, Ali, le solde des soldes est d'une semaine, hein, le 8 février, c'est fini. Le 8 février, qui est la journée internationale sans téléphone portable, alors ça marche pas très bien d'ailleurs, hein, il y a toujours plein de téléphones à vendre en solde, et je vois le moment où cette journée sans téléphone portable va tomber à l'eau. Alors qu'aujourd'hui, 1er février, c'est la journée internationale du sport féminin. Mais je ne me risquerai pas à me demander si les soldes sont un sport plus féminin que masculin.
Oulala, non.
Donc encore 8 jours pour dépenser Quibus, Jaunet, Bresse, Picaillon, Flouze, Fraîche et Grisby. 8 jours pour cracher au bassinet, ce qui avec un masque n'est pas forcément facile, ni même hygiénique. Acheter. Mais acheter peut aussi signifier hors taxe. Et oui, rien n'est innocent dans la langue, comme disait hier l'ancien prix Goncourt Nicolas Mathieu, venu défendre son beau roman Connemara chez Actes Sud, chez Augustin Trapenard, pardon. Rien n'est innocent, rendez-vous compte, Ali, que le verbe consommer, par exemple, est lié à consommable, sommable, ce qui s'additionne, sommer, somme. Parce que oui, les consommateurs sont souvent pris pour des bêtes de somme, des animaux de portage. J'ai bien dit portage, hein, et non pas potage. Quoiqu'il n'y a pas loin de potage à consommer. Non, rien n'est innocent et surtout pas la langue, car le mot sommation de la même famille est un terme utilisé en mathématiques, mais aussi en physiologie. C'est une somme de plusieurs stimulations du cerveau et de même espèce. Un peu ce que vous montrez dans votre article, Sylvie Chocron, sur ce qui se passe dans le cerveau au moment de l'achat, plus particulièrement au moment des soldes. Le cerveau, on l'a dit, aussi entre plaisir et souffrance, plaisir d'acheter sur le moment et souffrance à venir quand on se rend compte de l'inutilité de l'achat. C'est un endroit du cerveau appelé l'insula qui régule tout ça, hein, insula qui signifie « île » en latin. Ce n'est pas innocent non plus, lors des soldes, il n'est pas impossible de prendre l'eau de partout et d'acheter n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand et pas seulement vendredi. Et les magasins et les sites en ligne ne se privent pas pour proposer des articles à acheter. Parmi ce qui est proposé, les objets high-tech évidemment sont nombreux, des téléphones portables à n'en plus finir, et acheter des téléphones portables de plus en plus sophistiqués, c'est parfois prendre le client pour une pomme. Des téléphones, des montres connectées et des casques en tout genre, parce que oui, pendant les soldes, il faut casquer. Et pour la maison, des matelas, des aspirateurs, des robots, des lave-linges, et je pense être capable de faire un jeu de mots pour chaque achat, pour chaque objet.
Non, non.
Même si Ali, vous allez trouver que mes jeux de mots sont aussi en solde. J'assume, et d'ailleurs, je pourrais ici solder quelques mots et expressions, solder en charge, et qu'on n'en parle plus, on dit chargé de, et non pas en charge, solder en capacité, et on n'en parle plus, on dit capable de, et non pas en capacité de. Dimanche, j'ai entendu un homme politique dire que les Français sont en recherche de bons produits. Non, il faudrait plutôt dire qu'ils recherchent des bons produits. Bon an, mal an, le « en » parasite la langue française par une formulation venue de l'anglais, et ça m'énerve. Pire, je suis totalement en énervement. Je ne serais pas étonné qu'un jour on trouve chez les bouquinistes « En recherche du temps perdu » de Marcel Proust.
Proust,
voilà, ça c'est un nouvel auteur. Alors le livre sera en solde et ben, moi je ne l'achèterai pas.
Les choses presque vues d'Éric Libio à réécouter sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi notre cerveau est accro à la nouveauté lors de nos actes d'achat. En attendant, on écoute Aldous Harding qui interprète Lone. Harding va prêter Lone.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi,
sur France Inter.
11h10, qu'est-ce qui nous pousse à acheter ou pas? C'est la question que nous posons avec le mensuel Cerveau et Psycho. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Alors Sylvie Chocron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Une chose est sûre, les publicitaires et les as du marketing savent jouer à merveille sur notre désir de nouveauté. Notre cerveau est accro à la nouveauté.
Vous avez tout à fait raison. On a une fonction dans notre cerveau qui s'appelle l'attention. Et l'attention, finalement, c'est la capacité à réagir à la nouveauté, à s'orienter vers la nouveauté. Donc c'est très important pour notre cerveau, qui est un organe qui sert à prédire les situations, mais qui aime être surpris, surtout si c'est pour quelque chose d'agréable. Et donc cette nouveauté, par exemple, tout d'un coup, le sac de mes rêves, là, vous voyez, c'est du vécu.
La tondeuse de mes rêves.
La tondeuse de mes rêves. Donc tout d'un coup, je vais voir cet objet devant moi, je vais être tellement agréablement surprise, ça va libérer de la dopamine dans mon cerveau, activer tout le circuit du plaisir, et je vais me dire que c'est pas possible que je résiste à cet achat, parce que...
Mais ça ne dure pas longtemps.
Ce plaisir de la nouveauté ?
Oui, parce que on souhaite un objet ardemment, on l'a entre les mains, on le déballe, on est heureux. Et puis voilà, et puis ça passe vite ce plaisir-là.
Exactement, parce que finalement, on a ensuite toutes nos régions dans le cerveau qui sont celles justement du raisonnement et de la douleur. Et on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu acheter ça alors que j'en avais pas besoin ou que j'avais le même à la maison ? Et c'est pour ça qu'on dit aussi en ce moment, beaucoup de recherches en neurosciences qui montrent qu'on se fait souvent plus plaisir avec l'achat d'une expérience, un voyage, un spectacle ou quoi que ce soit, plutôt qu'à l'achat d'un objet. Parce qu'un objet, il y aura toujours plus beau, plus neuf, plus récent, alors qu'une expérience, on va la revivre en permanence et ça va nous apporter du plaisir à chaque fois.
Thierry nous demande de quelle façon l'emballage, le packaging nous incite à acheter. Comment notre cerveau est-il séduit par tel emballage et par tel autre ? C'est vrai que le packaging, pour attirer notre attention, va jouer sur la couleur, les images, la typographie, la marque, le logo, le design, les finitions.
Alors, en fait, le packaging joue vraiment sur tous nos mécanismes perceptifs, conscients et inconscients. Ce que vous savez sans doute pas, c'est que dans le logo se cachent souvent des informations qu'on traite de manière totalement inconsciente, que notre cerveau traite sans que nous n'en ayons conscience. Et donc, par exemple, je peux donner le Bien nom d'une marque, par exemple FedEx, le logo FedEx, à l'intérieur de FedEx, entre le E et le X, on a une flèche qui symbolise la rapidité avec laquelle ils vont livrer. Et donc, des exemples comme ça, il y en a énormément. Et donc, les publicitaires savent jouer non seulement sur notre expérience sensorielle, sur notre mémoire consciente, mais aussi inconsciente.
David Colomb, professeur à Sciences Po Paris.
Je vais vous donner juste un petit exemple. Ernest Dichter, ce publicitaire psychologue autrichien, absolument génial, qui devait vendre des gâteaux et qui se heurtait à l'inhibition des clients qui se disaient « Non, je ne vais pas acheter la boîte de gâteaux parce que je vais grossir. » Et donc, il a eu la solution, mettre à l'intérieur du paquet des petits sachets pour lever l'inhibition des acheteurs. Et c'est un dispositif qui existe encore aujourd'hui.
Caroline Cuny, professeure de marketing.
Oui, alors sur les packagings, on va trouver en fait tout un tas d'éléments que vous avez cités et qui sont en fait autant d'indices pour nos associations en mémoire, pour nous permettre effectivement d'identifier, de catégoriser et puis de nous donner envie ou pas d'acheter des choses. Il y a de nombreuses études, par exemple, en ce moment sur les labels. Tout à l'heure, on parlait de manger ou de consommer écologique, développement durable, etc. Ben, les labels, par exemple, qui sont apposés sur les packagings et qui nous inciter ou nous dire que c'est un produit bio ou écolo ou simplement produit en France ou etc etc. Tous ces labels en fait à chaque fois augmentent en fait l'intention d'achat chez les consommateurs par rapport à s'il n'y avait pas de label à poser sur ces packagings.
Et attention aux emballages et aux étiquettes qui nous induisent en erreur et qui nous poussent à l'achat. Je pense à ces carrés de chocolat absolument appétissants sur un emballage de mousse au chocolat qui contient, 3% de cacao. Ce sont des belles promesses nutritionnelles pour des produits trop souvent riches en sucre et en additifs. Et je renvoie d'ailleurs à l'enquête de l'association CLCV qui a analysé 900 produits entre 2017 et 2021. David Colomb.
c'est tout un art de persuader les consommateurs de croire en une promesse. Et cet art publicitaire relève pour une bonne part de la science, la collecte de données, l'analyse des profils psychologiques des consommateurs, parce que par exemple, si vous voulez vendre un système d'alarme, mieux vaut savoir si votre client est anxieux ou pas.
Tiens, David Collomb, il y a beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Quels outils utilisent les géants du numérique? Il faudrait des heures à consacrer à ce sujet. Quels outils utilisent les géants du numérique pour nous pousser à acheter?
Eh bien, c'est simple. La combinaison de tous les outils que nous avons mentionnés jusque-là et de bien d'autres outils, puisque ces plateformes ont la possibilité d'analyser pratiquement en temps réel les caractéristiques psychologiques des individus et de les exploiter en même temps que les plateformes exploitent les données relatives à leurs achats.
Et c'est vrai que ces entreprises, ces géants du numérique peuvent faire des expériences à grande échelle. Une entreprise comme Facebook peut se permettre de tester sur des milliards d'utilisateurs la validité des grandes théories de psychologie sociale appliquées à la publicité.
Effectivement, il s'agit de breveter chacune des grandes découvertes dans tous les champs du savoir ayant trait au comportement humain.
Alors c'est un peu désespérant, dans une interview pour le Carnet Psy, vous dites qu'il est très très difficile d'échapper à l'emprise de ces plateformes numériques, car je vous cite, nous sommes entrés dans une ère de propagande totale.
Nous sommes entrés dans une ère de propagande totale et en même temps d'une persuasion qui est de plus en plus difficile à identifier.
Sylvie Chocron.
Oui, et en fait, on parlait de ces messages qui sont envoyés directement à notre cerveau de manière inconsciente et de ces géants du numérique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Amazon a une petite flèche qui va de A à Z avec un sourire en même temps. Et donc, en fait, en un logo, ils vous ont dit qu'ils vous livraient tout avec le sourire et que vous seriez heureux.
Difficile de résister, Sylvie Chocron.
Difficile de résister parce que difficile d'être conscient déjà de tout ça. Donc, on l'a dit tout à l'heure, si on nous demande si on est sensible à la pub ou pas, on va répondre que non, alors qu'en réalité, on l'est. Donc, c'est ça le problème.
Caroline Cuny, le mot de conclusion.
Alors, pour résister tout de même, je trouve qu'il y a deux idées qui peuvent être partagées pour tout le monde. La première, c'est d'écouter ce genre d'émission pour comprendre un peu mieux comment on fonctionne. Et la deuxième, figurez-vous, monsieur Rébéi, c'est la méditation.
Ah oui.
Puisque la méditation permet de suspendre son jugement. Et donc, évidemment, il y a tous des processus automatiques qui ne sont pas du tout accessibles. Voilà. Mais pour les autres processus qui nous font réagir de façon un peu trop rapide, un peu trop basé sur nos émotions, etc. Le fait de méditer, donc de prendre conscience ensuite dans sa vie quotidienne en adoptant cette posture de justement de ce qui est nos pensées, ce qui est nos émotions, etc., etc. Ça nous permet du coup de réagir un peu plus en conscience et en pleine présence.
Allez, je vais méditer devant le rayon tablette de chocolat tout à l'heure. Hein, merci beaucoup Sylvie Chocron. Votre article est à lire dans le dernier numéro de Cerveau et Psy. Avec à la une enquête sur le cannabis. Merci également donc Caroline Kiné, merci David Collomb. Je recommande vraiment Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse, et c'est publié chez Taillandier. Demain, on démonte les idées reçues sur les jumeaux.